Jésus ne reviendra pas sur terre. C'est que la Bible dit, on ne peut plus clairement, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Lorsque Jésus viendra à notre rencontre dans les airs, le monde et ce qu'il renferme doit être détruit par le feu. Cela ne peut faire aucun doute pour ceux qui croient à l'inspiration divine des Écritures. Par ailleurs, le fait que Pierre parle bien de ce retour dans le troisième chapitre de sa seconde épître n'est plus à établir. L'apôtre dit expressément, « Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'un et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Il s'agit là de l'affirmation du libre accès à la parole de Dieu et à la vérité incontestable de Dieu par les Écritures. Mais ajoute encore Pierre, dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du jugement et le jour du Seigneur sont donc une seule et même chose. Paul, quant à lui, nous démontre amplement que le jour du Seigneur se situe sans doute possible au moment de son retour. Qu'adviendra-t-il au ciel qui entoure notre globe et à la terre elle-même? L'apôtre Pierre nous le dit à nouveau. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ce passage de l'Écriture déclare avec emphase la fin, l'extinction, la terminaison du présent système matériel. Il spécifie le cours des événements devant se dérouler au jour du Seigneur. Les déclarations particulièrement descriptives de Pierre concernant la fin de notre monde physique peuvent se diviser en trois parties distinctes. Premièrement, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Deuxièmement, les éléments embrasés se dissoudront. Troisièmement, les cieux passeront avec fracas. Il est très malaisé d'imaginer à la lueur de ce que les Écritures disent à propos de la fin du monde, comment il est encore possible d'élaborer une théorie faisant intervenir un prétendu règne terrestre de Jésus. Durant 1000 ans, bien sûr. Comment est-ce concevable? Si lors du jour du jugement, ou alors que Jésus reviendra chercher les siens, la terre et les œuvres qu'elle renferme étant consumées, comment pourrait-il régner durant 1000 ans sur une terre embrasée et dissoute? Quel étrange règne que celui-là! Le jour où Christ reviendra représente bien un espace de temps. L'apôtre Pierre relie entre eux les événements devant se dérouler au retour de Jésus avec le jour du Seigneur. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et dans la ruine des hommes impies. La ruine, la perdition des impies signifie évidemment que ces derniers seront éternellement perdus. Le mot perdition signifie être livré à la misère éternelle, comprenant la perte de toutes les choses valant la peine d'être vécues. Le Seigneur décrit le jour du jugement et la perdition des impies. Il dit, et ceux-ci iront au jugement éternel, mais les justes à la vie éternelle. L'endroit où se situe ce châtiment sans fin comporte un feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, affirme le Fils de Dieu. Toute doctrine soutenant, supposant ou laissant entendre que les gens responsables de leurs actes qui mourraient sans avoir obéi à la volonté de Dieu se verraient accorder une seconde chance est fallacieuse et par conséquent contraire à la vérité divine. L'apôtre Paul nous exhorte à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En vivant un tel genre d'existence et en nous préparant, nous serons à même d'attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui ne se conforment pas aux enseignements de la grâce et le sort de ceux qui mourront sans avoir obéi à l'évangile de Dieu est déjà décrété et arrêté. Leur destin s'accomplira lorsque le Fils reviendra pour le jugement. Paul écrit à ce sujet, « Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Avez-vous obéi à l'Évangile, cette merveilleuse bonne nouvelle du salut offerte à tout être humain par la grâce de Dieu? Les enseignements de Jésus représentent une merveilleuse délivrance de l'emprise du péché par la mort de Jésus-Christ. Elle est offerte à ceux qui lui obéissent par le Fils, dit le Nouveau Testament. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Les ordres donnés par l'Évangile doivent être suivis, de manière à ce que les hommes puissent atteindre l'extraordinaire grâce de Dieu et être sauvés. Les commandements exprimés par Jésus-Christ stipulent que le chrétien doit se repentir de ses péchés. Le livre des Actes spécifie bien que Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui aujourd'hui. Par contre, il fait annoncer à tous les hommes en tous lieux qu'ils doivent se repentir et changer de vie. Il a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Il a désigné comme juge suprême un homme qu'il a lui-même accrédité. En effet, il a donné à tous une raison péremptoire de croire en lui, car il l'a ressuscité d'entre les morts. L'Épître aux Romains dit qu'il faut encore confesser sa foi dans le Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ensuite, cette même épître affirme qu'afin d'avoir accès aux bénéfices acquis par la mort de Christ, il est indispensable d'être baptisé, immergé, en similitude avec cette même mort. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie, et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Ceux qui servent Christ iront un jour vivre auprès de lui. Non sur terre durant 1000 ans, mais pour l'éternité, dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où la justice habitera et dont parle si éloquemment l'apôtre Pierre. Christ est parti afin de préparer une place pour son peuple, et la terre sera consumée, dissoute, fondue, après qu'il sera revenu nous chercher. Il est d'autant plus important, par conséquent, d'écouter avec gravité l'exhortation de l'apôtre Paul de chercher les choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Comment est-il possible de lire ce passage des Écritures en les méditant un temps soit peu, sans comprendre que le fameux retour sur terre et le règne imminent de Jésus ne sont qu'une vaste vue de l'Esprit? Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, qui, d'après son propre témoignage, écrivit les commandements du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans les projets de l'Éternel, tels que révélés en Colossiens 3, aucune place, aucune possibilité n'est laissée à un règne terrestre et millénaire. Ceux dont l'esprit tortueux cherche à élaborer une théorie tout arbitraire à partir des termes venus et apparition du Seigneur, qui est une distinction que la parole de Dieu n'a jamais eu l'intention de faire. Quand Christ apparaîtra, les morts ressusciteront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. À la dit l'apôtre Pierre, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le jour du jugement sera devenu une réalité, car, nous dit les Écritures, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies, affirme toujours Pierre. La destinée éternelle des hommes sera décrétée par le Fils de Dieu, car Paul dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait, étant dans son corps. Et les fidèles du Fils de Dieu se verront accorder une enveloppe glorieuse. L'épître aux Philippiens est particulièrement clair à ce propos. Notre cité à nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Les sauvés du Seigneur seront avec leur maître dans la gloire. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Lorsque l'on considère que Jésus ne reviendra jamais sur terre, il est aisé de comprendre la pleine signification des paroles suivantes. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous ai-je convaincu, ou tout au moins fait réfléchir sur ce sujet? J'en serais très heureux, car tant de personnes sincères se laissent gruger à propos de ce sinistrement célèbre règne de 1000 ans. Soyons tout simplement soumis aux paroles du Nouveau Testament et fidèles à Jésus-Christ, qui, selon la première épître de Pierre, nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire, ni salir, qui ne perdra ni sa beauté, ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux, pendant qu'il vous garde. Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nous. Nous parlons de ce que la Bible dit et de nos références à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse CEDEX. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse CEDEX, France.